La CNASIM, Chambre nationale des agents commerciaux en immobilier, vous parle sur Radio Immo.
Bonjour, bienvenue à tous. Je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de la CNASIM vous parle. On va aujourd'hui parler d'un sujet qui fâche peut-être, la crise de l'immobilier, en tout cas un marché immobilier de plus en plus tendu. Est-ce qu'on est dans une crise ou est-ce qu'on est sur un retour à la normale ou une régulation? On va voir ça avec nos deux experts du jour. On est ravi d'accueillir, comme d'habitude, Jean-Yves Frappin. Bonjour Jean-Yves.
Bonjour Fabrice.
Secrétaire général de la CNASIM, on rappelle la CNASIM, le syndicat des agents commerciaux en immobilier. Et à vos côtés, vous êtes venu, Jean-Yves, avec Claude-Olivier Bonnet. Bonjour Claude-Olivier.
Bonjour Fabrice.
Vous êtes formateur, reconnu dans la profession, formateur émérite, vous baladez partout en France, créateur d'Estimia, qui est lui-même une subdivision de DigiP, hein, l'écosystème digital immobilier.
C'est ça, qui est un support pour les professionnels, qui leur permettent de faire le métier de l'estimation jusqu'à la vente et au rapport TRACFIN obligatoire.
Exactement, et voilà, un métier qui est de plus en plus complexe, en tout cas, hein, de plus en plus d'obligations pour les agents immobiliers. Alors messieurs, on va parler de cette crise immobilière qui pointe son nez, en tout cas. On nous dit qu'après 5 années d'un marché plutôt euphorique, le ralentissement est là sur les volumes. Ça commence également sur les prix. Dans certaines régions, ça commence à baisser franchement. Et on peut se poser question, hein, est-ce que voilà, on est arrivé la fin d'un cycle. Comment les professionnels réagissent? Est-ce que justement, on sent un petit vent de panique? Est-ce que certains commencent à être dans une situation difficile, Jean-Yves Frappin?
Eh bien, au niveau de la CNASIM, on s'en aperçoit pas beaucoup, car nous ne perdons pas d'adhérents. Donc, bien sûr, il y a 60% de nos adhérents qui sont en auto-entrepreneurs. Donc, évidemment, ils n'ont pas tout à fait les mêmes charges que ceux qui sont en BNC au réel. Donc, s'ils ont peut-être une autre activité à côté, on le sait pas. On ne voit pas une hécatombe parmi nos adhérents. Il y a une chose qu'il faut constater quand même, c'est que sur ces 5 dernières années, il y a eu plus de 5 millions de transactions qui ont été réalisées dans l'ancien, ce qui représente environ 15% de toutes les habitations qui existent en France, et que évidemment c'est rare qu'un vendeur, quand même, quand c'est sa résidence principale, change de résidence principale tous les 5 ans. Donc je pense que c'est plutôt une régulation du marché plutôt qu'une crise.
C'est-à-dire qu'à un moment on est peut-être allé trop vite sur certaines. Après post, on rappelle hein, les faits post crise sanitaire, c'est vrai qu'il y a eu une ruée un petit peu sur peut-être une résidence secondaire, ouais. Sur une nouvelle résidence. Sur peut-être des appétences sur le littoral, par exemple, qui a flambé, la montagne, le littoral ont flambé, et là, on sera un peu en bout de course.
C'est exact. C'est-à-dire que les gens qui ont été confinés dans des petits appartements de Paris et donc, ont eu envie, en fin de compte, de partir à 1 heure ou à 2 heures de Paris, en ayant bien sûr les moyens de communication rapides pour venir à la capitale. Mais surtout, je pense qu'il y a ce qui a fait que les vendeurs ont pris, les plus-values, et puis ça avantageait aussi le marché du fait qu'on était à des taux qui étaient quand même très 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 bas. Il y avait les prêts taux zéro et tout, etc. Et là, évidemment, c'était un petit peu l'euphorie qui a fait aussi monter les prix. Donc, il faut se reconnaître une chose, c'est que dans certaines villes, le prix, en l'espace de 15-20 ans, le prix a été multiplié par 3 ou 4. C'est quand même, ce sont quand même des sacrées plus-values. Donc les gens, ils ont voulu.
Et c'est allé beaucoup plus vite dans certains domaines. Ce matin, quelqu'un de Cap-Breton, voilà, sur la côte atlantique, me disait Cap-Breton, c'est x2 en 4 ans.
Oui,
incroyable.
Oui. Moi, j'ai un exemple sur ma maison que j'avais vendue il y a 20 ans. Elle a été, elle a été revendue 4 fois le prix que je lui avais vendu.
Incroyable.
Voilà.
Elle est où, votre maison, aujourd'hui?
Dans la banlieue de Nantes. Elle était, puisque c'est plus à moi.
Après,
maintenant.
Nantes aussi, c'est à changer, c'est embelli, évidemment, hein, toutes ces métropoles qui ont pris du dynamisme.
Mais je crois que Claude a fait une très très belle analyse, justement, sur ce marché. C'est la raison pour laquelle je l'ai invité aujourd'hui. Parce que j'ai lu son rapport et vraiment, il est très très pointu avec des chiffres, des statistiques. Donc, je préfère lui laisser la parole directement.
Alors, Claude, on est bien sûr Ravi de vous avoir sur le plateau et puis d'avoir cette fameuse analyse, vous qui suivez attentivement ce marché, qui êtes au contact hein, quand oui, même oui. Des agents tout le jour, donc vous voyez, vous suivez le pouls du marché.
Tout à fait, on intervient, enfin moi j'interviens à titre personnel autant dans le haut de gamme que dans du grand public, et je vais à la fois en province, on va dire populaire comme en province, très chic, balnéaire, où on voit effectivement des montées. Nous sommes nous sur la région de Pornic, on avait constaté effectivement des progressions de x3 aussi, x2, sur moins de 10 ans en tout cas. Maintenant, la vraie question, c'est est-ce qu'on parle de crise ou de régulation ? J'ai une petite image que j'aime bien évoquer, qui est celle de quelqu'un qui aurait beaucoup consommé, mangé de façon excessive pendant 3-4 ans. Alors là, nous, on va dire pendant 3 ou 4 jours. Au bout de 3 ou 4 jours, il n'en peut plus les rassasier. Ben, à un moment donné, il va falloir qu'il arrête un peu, voire qu'il fasse un peu de diète. Ben, je pense que le phénomène de l'immobilier aujourd'hui, c'est un peu ça.
Okay. Qu'on a... Il y a eu les fêtes de fin d'année, voilà. Finalement.
On a bien mangé, on s'est gavé pendant 5 ans. C'est vrai que c'était bien, le rythme était là. Les taux d'intérêt, comme le disait tout à fait Jean-Yves tout à l'heure, à 0,8, j'achète de l'argent à 0,8, et lorsque l'inflation est à 4, 5, 6%, c'est extraordinaire. Aujourd'hui, ça veut dire que j'ai aucun intérêt à porter en comptant, j'ai intérêt à prendre du crédit. Et ça a favorisé, bien sûr, l'accès au primo-accédant, mais surtout, ça a favoriser le prix pour les vendeurs qui, voyant plus d'acheteurs et voient une précipitation des acheteurs, ont augmenté les prix. Ce qui fait qu'à un moment donné, en matière d'économie, on ne peut pas rester dans cette logique-là. Ouais. La logique d'une progression à x2, x3, en 4, 5, 10 ans parfois, et à un moment donné, si on ne régule pas un peu le marché, si on ne le calme pas, bah la crise va être encore plus phénoménale après. Ouais. C'est-à-dire que la chute va être encore plus grande. Donc aujourd'hui...
D'autant qu'on rappelle, mais ça n'échappe à personne, que la courbe des salaires, par exemple, n'a pas suivi tout à fait le même rythme.
Bah, si vous avez les prix qui font ça, que vous avez l'inflation qui fait ça et que vous avez les salaires qui font ça, il est évident qu'à un moment donné, on ne va pas se rencontrer. Donc on va se retrouver avec des biens qui vont être sur le marché, avec des appétits de vendeurs qui vont être trop importantes, et puis des acheteurs qui ne pourront pas suivre. Avec la régulation du crédit immobilier, on est encore sur des crédits intéressants, parce qu'à 4%, il faut arrêter de hurler. C'est un crédit intéressant quand on a une inflation à 6,5%. Hein, j'achète toujours de l'argent avec un d'état de 2,5%, donc je peux accéder au crédit. Maintenant, effectivement, il y a 45% des crédits sur le mois de mai, par exemple, qui n'ont pas rencontré d'accord de banque. Donc ça veut dire que les banques verrouillent, on le voit avec le rapport du HESF, qui veut pas déborder sur le récent à vivre et qui veut rester sur une logique 35% d'endettement avec le TAEG et qui veut 25 années maximum. Donc c'est vrai que l'accès au crédit est plus faible, mais il était normal qu'à un moment donné, on se calme un peu. Une crise, c'est quoi ? C'est 1991. Depuis 2008 et 2015, ce sont des mini-crises. Oui. Donc, des mini-baisses.
Donc, on rappelle, hein, pour les plus jeunes, peut-être, 91, c'est vrai que c'était une baisse alors là, extrêmement sensible. Oui. On avait même du moins 20, moins 30% sur certains secteurs. C'est vrai qu'après la crise, donc la bulle, que ce soit la bulle Internet 2001 ou la bulle des subprimes, enfin la crise des subprimes, on a eu des baisses, mais limitées, oui. De 5, 10%, 15%.
Avant, si on reprenait, par exemple, le tunnel de Frigide, qui était un économiste, Jacques Frigide, qu'on analysait, on savait que quand le marché montait trop et qu'il y avait un décalage par rapport à l'économie, ça allait redescendre. Et on avait des cycles, on les connaissait, les cycles. Aujourd'hui, il n'y a plus vraiment ces cycles-là. Mmh. Aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'il y a 7 ans d'augmentation, 7 ans de baisse, 7 ans d'augmentation, 7 ans de baisse. Aujourd'hui, il y a un marché qui n'est plus conjoncturel, mais parfois structurel. Donc, il y a un moment, poum, ça se casse la figure. La sortie de la Covid, comme vous évoquiez tout à l'heure, très bien. Mais la réalité, beaucoup sont partis vers la campagne, mais beaucoup reviennent aujourd'hui. Parce que vivre dans le rural n'est pas que simple. En termes d'écologie, ce n'est pas toujours évident, parce que finalement, on est tout le temps en voiture, dans certains cas. Donc aujourd'hui, on voit un retour aussi vers les villes secondaires ou les villes de proximité des grandes villes. Mais il y a un marché, qui fonctionne avec un peu moins de bonheur. En revanche, il y a des crises quelque part. Il y a des crises, c'est le neuf. Le neuf, là, rencontre une vraie crise. Moins 40% aujourd'hui de ventes en matière d'immobilier neuf. Pourquoi ? Bah pour plusieurs raisons. Elles sont structurelles. Le foncier, parce que le foncier en grande ville, il n'y en a plus ou très peu. La qualité des artisans, qui aujourd'hui ne sont plus référencés en termes d'écologie parce qu'ils n'ont pas les normes, ils n'ont pas assez d'ouvriers. Et un problème également sur le fait que les taux d'intérêt, enfin le PTZ sort par exemple de la maison individuelle.
Le prêt à taux
2024, zéro. Voilà, le prêt à taux zéro. Donc aujourd'hui, on voit bien que dans le neuf, eh bien là, on va connaître une crise. Mais dans l'ancien, je dirais que tout va bien. On le voit sur les chiffres des notaires, lissé sur les 12 derniers mois au 31 mai, on est à peu près à 1 036 000 transactions, contre 1 200 000 sur l'année totale de 2022. C'est une baisse de 10 à 15%, mais on est largement au-dessus du trend qui devrait être... Si on parlait de crise, il faudrait qu'on soit à moins de 700 000 transactions. On devrait atterrir en 2023 aux alentours de 900 à 950 000 transactions. Donc ça va pas si mal que ça. C'est pas une catastrophe. le marché est là, il y a quand même toujours des gens qui ont envie d'acheter, et il y a toujours des gens qui aujourd'hui ont des capacités à acheter. Mmh.
On a l'impression que le rapport de force a été inversé, c'est-à-dire que c'était pouvoir aux vendeurs qui pouvaient nous vendre, peut-être pas à n'importe quel prix, mais en tout cas qu'il y avait des gens, comme vous l'avez dit, qui voulaient acheter absolument. Là, on recommence à négocier, et peut-être sur certains marchés, les vendeurs sont restés à un prix peut-être de l'an dernier,
voilà,
ils n'arrivent pas à faire encore psychologiquement le pas de se dire il faut baisser de 10 à 15% pour vendre son bien.
C'est exact. Et il y a donc les agents commerciaux en immobilier, bien sûr, sont tous les jours sur le terrain à prospecter, et on voit très très bien ce qu'ils nous disent, c'est qu'ils trouvent des vendeurs. Mais ces vendeurs ne veulent pas baisser les prix. Et évidemment, ça crée une stagnation. Ils attendent.
On est un peu dans cet état du point mort. C'est-à-dire que le vendeur qui ne vendrait pas au maximum de ce qu'on a connu en matière de prix, oui, a l'impression qu'il perd de l'argent.
Il perd de l'argent,
ouais. Et pourtant, il gagne de l'argent parce que par rapport à ce qu'il a acheté, il a quand même vendu plus cher.
Bien sûr.
Il a déjà du mal à dire qu'il va être celui qui va vendre un peu moins cher que ce qu'on a pu connaître. Et l'acheteur voudrait, lui, acheter en dessous de tout ça, en ayant lu, parce que là aussi, on voit bien quand même que beaucoup sont alarmistes, il y a tous ceux qui voudraient être les plus pertinents en disant c'est la crise, ça va pas, etc. Il y a à l'international une vraie crise immobilière, on le voit, il y a des tendances, mais c'est pas pour autant qu'elle va forcément totalement se répercuter. Elle aura des incidences, elle aura des effets sur le territoire français. La dette quand même française est énorme, donc aujourd'hui on voit que le gouvernement se désengage, on voit que la taxe foncière augmente, et nous par exemple sur Estimia, on parle du coût d'usage d'un logement. Aujourd'hui, c'est plus que le prix qui est intéressant. Bien sûr, le prix est intéressant, mais combien le logement va me coûter ? Taxes foncières, énergie, les rénovations, les réhabilitations. Ceux qui sont en F ou en G, aujourd'hui, quel est le coût pour remettre ça dans un état correct ? Il y a 2 090 000 logements qui sont aujourd'hui en classe G.
Sur ces 2 millions, passoires thermiques.
Des passoires thermiques. Sur les 2 millions, il y en a 800 000 qui sont dans le parc locatif. Donc, que fait-on sur ces logements dès qu'on sait qu'il nous en manque 500 000 par an, neuf? Donc, il va falloir trouver des nouvelles dispositions. On espérait un peu que le CNR allait aller dans un sens assez positif. Or, finalement, il n'y a pas eu de vraies décisions. Donc, aujourd'hui, on ne sait pas exactement à quoi s'attendre sur ce besoin d'améliorer ce marché de l'immobilier. Mais en tout cas, il y a assez de logements et il y a assez d'acheteurs sur le marché.
Ouais, alors, on fera un autre podcast, un spécial CNR. Donc, vous le retrouvez bien sûr sur l'antenne de Radio Immo. Pour l'instant, on se concentre sur ce marché. On peut se poser la question, Jean-Yves, de l'avenir justement de ce marché. Qu'est-ce qu'on fait pour retrouver un peu de sérénité? Est-ce que c'est du côté du HSCF, justement, du Haut Comité de Stabilité Financière, du côté de Bercy? Est-ce que c'est... Parce qu'on a l'impression que là, la situation est un peu bloquée et compliquée.
Le plus important, c'est de revenir quand même, redescendre les taux d'emprunt.
Mais ça dépend pas forcément de la France. Hein.
Mais non, la banque et tout, etc. Mais enfin bon, je pense que si les taux redescendaient, peut-être qu'il y aurait plus d'acquéreurs possibles et que des dossiers passeraient plus facilement. Voilà.
Oui, et puis il y a le prix de l'immobilier qui devrait certainement, s'il baisse de 10 à 15%, il va permettre de refusifier le marché.
C'est pas ce qu'on voit actuellement.
Oui,
ce
mais ça va venir.
C'est
je pense qu'on est vraiment dans la phase actuellement un peu latente, là, et puis à un moment donné.
Alors, sauf divorce,
la règle 5D.
Voilà,
les vendeurs résistent, on l'a vu. Pour vous, Claude Olivier, c'est vrai que ça serait une baisse de 10 à 15% pour fluidifier ce marché, retrouver un peu de marge de manœuvre.
Complètement. Parce que c'est vrai que l'accès à la propriété aujourd'hui, il y a de l'argent en France. Hein. Franchement, on est surpris. Moi, je le vois parce que sur les grandes villes de France et sur les stations balnéaires, les budgets sont énormes. Franchement, aujourd'hui, j'irais entre guillemets à 1 million, 1,5 million, vous n'êtes plus riche. C'est hallucinant de dire ça aujourd'hui, à notre époque. En 2000-2002, quand on avait 1 million de francs, c'est-à-dire 150 000 euros, hein, 1 million de francs, on était riche. 150 000 euros, aujourd'hui, vous ne faites pas rêver. Donc, il y a quand même de l'argent. Après, est-ce que ça veut dire qu'il va y avoir un écart entre les plus riches et puis les plus pauvres, mais en tout cas ceux qui ont le moins de moyens, et cet écart-là, il va peut-être se creuser un peu. C'est ça qu'il devrait y avoir. En revanche, sur le grand public et sur le marché de masse, il est évident que si on descend de 10 à 15%, ça va fluidifier le marché, en termes de prix de l'immobilier, hein, j'entends.
On va garder cette maxime, hein, pour 1 million, t'as plus rien. D'accord. Une dernière question, est-ce que c'est le moment de vendre ou d'acheter en ce moment ?
En fait, c'est pareil, c'est en économie pure. On sait que ce qu'on appelle le re-employment, c'est à tout moment, c'est toujours le moment. Si dans mon réemploiement, je fais le même différentiel. C'est le moment de vendre, parce qu'il y a des moments où j'ai pas le choix. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, la règle des 5D, hein, le décès, le divorce, le déménagement, c'est la mutation, le désir, j'ai envie aussi de m'améliorer, donc pourquoi pas vendre et puis trouver autre chose. Et c'est la même chose du côté de l'acquéreur, c'est que quand un acquéreur se pose la question, c'est qu'il a envie de le faire. Donc maintenant, c'est qu'il faut qu'il le fasse, pour plusieurs raisons. Un, c'est qu'il accède au crédit tout de suite à 4% pendant 25 ans, et il pourra toujours le renégocier à terme.
Après,
donc
ouais.
Ça veut dire qu'il
ouais.
Il va pas s'engager pour 25 ans absolument, il pourra renégocier. Deux, c'est qu'il commence à préparer sa retraite. Et trois, c'est qu'il va commencer à pouvoir faire de la gestion patrimoniale pour faire du transfert de patrimonial à ses enfants. Donc, autant acheter. Après, c'est d'acheter au bon moment, de savoir discuter les choses. C'est pas non plus d'y aller à coups de batte de baseball. C'est une négociation, elle doit être raisonnable des deux côtés. Il faut que le vendeur entende, il faut que l'acheteur soit aussi un peu à faire cet effort de temps en temps.
Et c'est une garantie aussi pour la retraite. Parce qu'à partir du moment où on arrive à la retraite et qu'on n'a plus de loyer à payer, bah, c'est quand même un gros avantage.
Oui, puis le Français,
avantage.
Il aime être propriétaire de son logement. Donc 85% des Français rêvent d'habiter en maison individuelle. Et on est à entre 57 et 62% de Français qui sont propriétaires. Donc on voit bien qu'on a, nous, une appétence immobilière, contrairement à notre président de la République qui, lui, préfère le monétaire à l'immobilier.
Bon, je vous laisse la responsabilité de vos propos, Claude
bah,
Olivier.
Non, je m'engage.
En tout cas, on sait que le meilleur moment pour acheter, hein, c'était il y a 5 ans. De toute façon, donc, il faut se lancer à un moment. Et puis, c'est vrai que des taux, comme vous le disiez, à 4-5%, on les a déjà vus. Voilà, il ne faut pas que ça freine, puisque le delta par rapport à l'inflation est toujours intéressant. Voilà, en tout cas, régulation ou crise, on pourrait en faire encore pendant des heures. On va s'arrêter là pour cette édition de la CNASIM vous parle. Merci Jean-Yves Frappin, merci Claude Olivier Bonnet, et à très bientôt.
Merci Fabrice.
La CNASIM vous parle, une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli radio.imo et sur toutes les plateformes de streaming.